Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement.
18h, tout le monde à la maison. Jean Castex annonce aussi des mesures pour les écoles. Elles restent ouvertes, mais avec un protocole renforcé, dossier dans ce journal. La campagne de vaccination va s'accélérer. Dès lundi, elle concernera aussi les personnes les plus fragiles, quel que soit leur âge. Reste une grande question, est-ce qu'on est toujours contagieux une fois qu'on a été vacciné? Nous tenterons d'y répondre. Plus de 8,5 millions de foyers reçoivent aujourd'hui les avances de crédit d'impôt pour l'emploi d'une personne à domicile. Virement direct sur le compte en banque. Encore beaucoup de neige aujourd'hui sur l'est de la France. Nous irons dans les Vosges où de nombreuses familles goûtent aux joies de la glisse, mais en luge, attention danger. Et puis Gatsby le magnifique, 1984 ou L'appel de la forêt. Ces romans entrent dans le domaine public en 2021, ce qui ouvre la voie à n'importe quelle adaptation.
Juste après ce journal, un an après le début de la pandémie en Chine, le Made in China est plus en forme que jamais. C'est l'éclairage éco de Nicolas Barré. Le regard international, Vincent Hervouette. La Russie aux mondiaux de handball, malgré sa suspension pour dopage. Hypocrisie, dit Virginie Fulpin dans l'édito sport. Avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vous faisiez quoi, vous, hier soir à 18h? Vous suiviez sans doute les annonces de Jean Castex et du gouvernement comme tout le monde? Ou presque, parce que certains Parisiens avaient mieux à faire, profiter d'un des derniers apéros après le travail, puisqu'à partir de demain, c'est couvre-feu à 18h dans toute la France. Écoutez le reportage de Laura Taouchanoff.
Il ne remarque même plus la pluie glaciale de cette soirée de janvier. Camille et Martin profitent d'un dernier instant de liberté devant leur bistrot de quartier, de bière emportée dans un gobelet en plastique.
On ira prendre des pentes à 16h, hein, s'il faut. On fera des pauses dans la journée de travail et puis voilà, mais on a besoin de s'aérer. Donc là, ça devient trop dur le télétravail. Sinon, on va péter un plomb.
De toute façon, ça fait un an qu'on s'adapte à tout. Je crois que l'année est placée sous le signe de la résilience. Et donc, on continuera à faire preuve de résilience.
Mais s'adapter devient de plus en plus difficile. En ce début d'année, pour Baptiste et ses amis, les yeux dans le vide autour d'un vin chaud.
Le couvre-feu à 20h, c'était compliqué pour faire des apéros. Donc là, à 18h, je vais juste faire une croix dessus, quoi, parce que j'ai pas le temps, je dois travailler, mais j'en boirai tout seul chez moi. Devoir tout arrêter comme ça, ça porte un peu sur le moral quand même. Tout est un peu gris, quoi.
Je vais juste donner un peu de pourboire.
Un œil sur sa montre, bientôt 20h, Lilia commande vite un dernier verre en soutien au gérant.
Il est dépité, ça va pas, il coule, quoi. C'est pour ça que je suis partie lui donner un pourboire, c'est pour ça que je suis venue que j'ai consommé encore plus. Je suis très empathique, c'est plus pour lui que ça m'énerve. C'est du soutien français.
Avec une fermeture avancée de 2h, ce restaurateur perd une centaine de clients.
Adieu l'apéro donc, le couvre-feu à 18h, c'est pour au moins 15 jours. Jean Castex n'exclut pas un nouveau confinement si la situation se dégrade. Le Premier ministre veut également freiner la propagation du virus dans les établissements scolaires.
Oui, surtout avec le variant anglais, des mesures plus strictes pour les cantines, avec éventuellement des paniers repas à manger en classe, mais aussi l'interdiction du sport en intérieur, que ce soit à l'école ou pour les activités extrascolaires. Virginie Riva, bonjour, vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1. Alors pour les profs, ces mesures sont insuffisantes.
Oui, pour le SNES, syndicat du secondaire, ces mesures ne sont pas à la hauteur de la situation. Perplexité des directeurs d'établissement également. Sur le moment qui pose le plus problème, la cantine. Bruno Bobkiewicz est représentant du syndicat des proviseurs. Impossible, selon lui, de diminuer encore le brassage.
Sur la cantine scolaire, objectivement, je ne vois pas quelle est la marge de manœuvre supplémentaire. Parce que ce qu'on a déjà pu faire, on l'a fait. Donc j'ai entendu la possibilité, les repas à emporter. On a quand même des normes d'hygiène qui s'imposent aussi dans les établissements scolaires. Donc on ne peut pas déjeuner n'importe où, et d'ailleurs sous la surveillance de qui ?
Concernant le sport interdit en intérieur, les proviseurs redoutent là un casse-tête pour savoir quoi mettre à la place en plein mois de janvier alors qu'il fait froid dehors. L'annonce qui satisfait plutôt, c'est sur les tests. Tests systématiques à partir de 3 cas. Hier, c'était 1, mais l'arbitrage a changé pour tracer et isoler. Mais aussi campagne à l'aveugle dès qu'il y a un risque sur un territoire. Une bonne nouvelle pour Guylaine David à la tête du SNUIPP, syndicat du primaire.
C'était une demande hein, de tester massivement, notamment pour avoir un niveau d'information sur la contamination et notamment sur les cas asymptomatiques, parce que c'est ce qui nous pose problème dans les écoles, on ne les voit pas ces cas-là. Par ailleurs, ce qui n'est pas clair pour le moment, c'est la mise en œuvre de ces tests, c'est-à-dire qui va faire ces tests et comment ça va se mettre en œuvre sur le terrain.
Pour l'instant, seulement des dizaines de milliers de tests ont pu être déployés, alors que Jean-Michel Blanquer en a annoncé 1 million disponibles dès novembre.
Alors en revanche, Virginie, la grande incompréhension, c'est chez les étudiants. Le Premier ministre reçoit ce matin les présidents d'universités, les organisations étudiantes. Tous espèrent plus d'annonces qu'hier soir.
En réalité, à ce stade, rien de nouveau, hein, si ce n'est un retour en demi-groupe en TD uniquement pour les premières années. À partir du 25 janvier, le président de la FAGE, le principal syndicat étudiant, Paul Maillot, est très déçu.
Une seule mesure annoncée pour 2,7 millions d'étudiants et dont la quasi-totalité a atteint un point de non-retour en termes de détresse psychologique, financière ou au niveau académique, c'est dénué de sens.
Les étudiants qui avaient pourtant eu le sentiment d'avoir été entendus par le ministère cette semaine, surtout après les suicides d'étudiants, les présidents d'université parlent d'une première étape et attendent ce matin des réponses sur la rentrée de février pour tous les étudiants.
Merci Virginie Riva. Et parmi les autres annonces, des mesures plus sévères aux frontières, tous les voyageurs arrivant d'un pays extérieur à l'Union européenne devront présenter un test datant de moins de 72 heures.
La campagne de vaccination va également s'accélérer. À partir de lundi, elle concernera aussi les malades souffrant de pathologies à haut risque, quel que soit leur âge.
Et pour l'instant, 318 000 personnes précisément ont été vaccinées en France. Mais une importante question se pose. Est-ce qu'on peut transmettre le virus une fois qu'on a été vacciné? On va tenter de répondre à cette question avec vous, Anne Le Gall. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le ministre de la Santé, Olivier Véran, est plutôt optimiste.
Alors, il repose sans doute sur des données publiées en Israël qui comptent déjà 2 millions de vaccinés, mais également sur les essais cliniques du vaccin Moderna, parce qu'il faut bien comprendre que pour savoir si l'on reste contagieux après la vaccination, eh bien, il faut savoir s'il nous reste du virus dans le nez ou la gorge. Or, justement, dans les essais Moderna, explique le professeur Jean-Daniel Lelièvre, infectiologue et spécialiste des vaccins, dans ces essais, les scientifiques ont fait un prélèvement nasopharyngé avant la deuxième injection.
Ils ont regardé s'il y avait plus ou moins de gens qui portaient de manière asymptomatique le virus dans le groupe vaccin. Et là, il y a une diminution.
Une diminution des formes asymptomatiques qui n'est pas aussi marquée que la diminution des formes graves, mais c'est quand même un espoir. Il va falloir désormais des études complémentaires pour confirmer et quantifier cet effet.
Anne Le Gall, et à partir de ce matin, 8h, les personnes qui souffrent de pathologies lourdes et les plus de 75 ans peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Voilà le numéro vert, c'est le 0800 009 110, 0800 009 110, ou alors il y a le site internet santé.fr. Aux États-Unis, touchés de plein fouet par la pandémie, Joe Biden annonce un méga plan de relance économique, 1900 milliards de dollars. On va y revenir dans le journal de 7h30.
7h07 sur Europe 1. Si vous employez une babysitter, une femme de ménage ou encore une aide à domicile, vous aurez une bonne surprise aujourd'hui.
Oui, vous allez en effet recevoir une avance de 60% sur les crédits d'impôt de l'année 2020. Le virement tombe directement sur le compte, Carole Ferry.
C'est ça, vous pourrez donc le voir sur votre compte en banque sous l'appellation avance crédit d'impôt. Cela concerne plus de 8,5 millions de foyers fiscaux pour un montant moyen de 640 euros. Mais bien sûr, c'est une moyenne et tout dépend de vos dépenses réelles. Un exemple, si vous dépensez 2000 euros par an pour l'emploi d'une femme de ménage, le crédit d'impôt prévoit de vous rembourser la moitié, donc 1000 euros, et vous recevrez aujourd'hui 60% de cette somme, c'est-à-dire 600 euros. Le complément est versé en général juste avant l'été et ajusté en fonction des sommes indiquées sur votre déclaration de revenus. Elle doit être remplie, je vous le rappelle, au mois d'avril. Pour ceux qui refusent de donner leurs coordonnées bancaires au fisc, eh bien, un chèque est envoyé à domicile. Il devrait arriver d'ici la fin du mois. Une avance qui coûte au total 5,5 milliards d'euros à l'État, mais qui permet de faciliter les déclarations d'emploi à domicile et donc de lutter contre le travail au noir.
Carole Ferry, on vous avait parlé de cet employé de Deliveroo qui refusait de livrer des restaurateurs juifs à Strasbourg. Il a été condamné hier à 4 mois de prison ferme. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que cet Algérien allait être expulsé du territoire français.
9 départements de l'Est sont ce matin en vigilance orange, neige, verglas. Beaucoup de flocons, notamment dans les Vosges, pour le plus grand bonheur des familles qui, faute de ski, s'offrent de belles glissades en luge.
Oui, mais prudence, il y a eu plusieurs accidents le week-end dernier. Arthur Elmbaché, vous vous êtes rendu dans la station du Tannet près de Münster et vous avez rencontré des secouristes qui n'ont pas chômé.
avec le capitaine Raoul Josse qui se souvient de l'anarchie ici le week-end dernier. Les fauves étaient de sortie, dit-il.
Oui, oui, il y avait du monde. En fait, il y en avait ici. Voilà, ça, c'est donc la piste noire ici, là où on voit les cailloux qui sortent là-bas.
C'est très raide. Hein.
Voilà, ils partaient en luge de là-bas. Il y avait des bosses en bas, ils faisaient des sauts.
Alors qu'il y a des pylônes, des rochers.
Ah oui, oui, oui. Quelqu'un qui se prend un pylône, là, ça pardonne pas ou la cabane.
C'est une adolescente de 17 ans qui s'est tuée en luge dimanche dernier, pas très loin d'ici. Le lieutenant-colonel Milanesi dirige les pompiers secouristes de montagne.
C'est certainement un des derniers terrains de jeu qui est accessible à tout le monde, qui est gratuit. Et le fait de ne pas avoir de piscine, de ne pas avoir de cinéma, de ne pas avoir de possibilité d'activité en pleine, va générer beaucoup d'afflux dans ce qui reste ouvert et en plus qui est ludique et qui est sympa. Avec cette année, la chance de la présence de la neige. Et mon rôle, c'est d'anticiper ce qui peut se passer en termes d'organisation des secours. On a procédé à un rappel des troupes, je dirais, donc on a demandé à tous ceux qui étaient disponibles de se libérer en tenue, prêts à partir, pour des interventions un peu particulières.
Notamment avec ce tout nouveau petit véhicule à chenilles qui permet de rejoindre rapidement le lieu d'un accident.
Arthur Elmbachet à la station du Tannet en Alsace pour Europe 1.
Un peu de lecture. Jack London, George Orwell ou Scott Fitzgerald. Leurs romans tombent dans le domaine public cette année.
Oui, des œuvres publiées en 1925 qui deviennent donc libres de droit et ne sont plus protégées. Nicolas Caro.
Évidemment, pour les ayants droit, c'est une mauvaise nouvelle. Gatsby le Magnifique, par exemple, de Scott Fitzgerald, continue à se vendre au rythme de 400 000 exemplaires par an. Joli manque à gagner, l'œuvre appartient à tous maintenant, et donc plus de droits d'auteur à payer pour la version originale, mais cette entrée dans le domaine public implique aussi que n'importe qui peut s'emparer de l'œuvre pour en faire n'importe quoi. Le fils de Gatsby, Gatsby et les 40 voleurs, ou même Gatsby contre Mrs. Dalloway, si on veut. Le roman de Virginia Woolf est lui aussi libre de droit, comme tous ceux publiés en 1925. Attention, il ne s'agit que des œuvres originales, pas des traductions récentes en français, par exemple. Dans cette catégorie, la traduction de L'Appel de la forêt de Jack London par Raymond de Galard entre aussi dans le domaine public en 2021. Le procès de Franz Kafka, idem, ou En marge des marées de Joseph Conrad, mais aussi le célèbre 1984 de George Orwell.
Nicolas Carouf.
Merci Hélène Zélani, c'était le journal de 7h sur Europe 1, il est 7h11.
Europe 1, Mathieu Béliard.